La première,
13h15, 14h30,
un jour dans l'histoire.
Beethoven, qui souhaite trouver un poste fixe à Paris auprès de l'homme d'État qu'il admire, le premier consul Bonaparte. Il décide donc de lui dédier une symphonie. Ce sera la troisième, dite l'héroïque. Et il écrit également une sonate pour piano et violon dans le style de l'école de violon parisienne. Avant que Beethoven ne donne la dernière note à sa troisième symphonie, un événement vient bouleverser ses plans. C'est le 2 décembre 1804. Bonaparte se sacre empereur. Plusieurs témoignages, tous ultérieurs d'ailleurs, racontent que Beethoven, furieux, aurait déchiré la partition de sa symphonie et se serait mis à haïr Napoléon. Et si la réalité était différente, c'est ce que nous allons voir avec Cécile Posse et Marion Guillemette.
La première présente Ludwig van Beethoven.
C'est des actes d'audace qu'il a eu dans ses compositions.
Cette souffrance n'est pas inutile.
Le vin, c'est la plus hygiénique des boissons.
Il y a des passages qui sont vraiment faits pour rire.
Des partitions totalement illisibles.
L'approfondissement infini de l'espace intérieur.
On entre presque dans le crâne d'un sourd.
Il y a eu un énorme orage.
Beethoven était fasciné, évidemment, par l'idéal révolutionnaire parisien, français.
Le pianiste François-Frédéric Guy.
Les Lumières, bien sûr, toutes les idées révolutionnaires qui pouvaient faire que les féodalités, les petites monarchies puissent tomber et laisser place, enfin, disons, à une expression sinon démocratique, du moins populaire. Il a été très sensible, évidemment, à toute cette influence française et cette influence, j'allais dire, napoléonienne, enfin en tout cas bonapartiste, car Beethoven, je pense, était plutôt bonapartiste, dans le meilleur sens du terme, moins comme on l'entend maintenant, parce que le côté bonapartiste a un côté un petit peu conquérant et même un peu anxiogène, mais bonapartiste dans le sens du porter l'idéal révolutionnaire dans les féodalités européennes et faire tomber enfin les anciens régimes. Ça, il y était très sensible.
Et Bonaparte,
la musicologue Elisabeth Brisson,
qui avait été en Italie, qui avait libéré donc bien des villes italiennes du joug du Saint-Empire romain germanique, était considéré comme celui qui allait ouvrir ce monde nouveau et permettre donc une nouvelle forme de vie politique et sociale qui soit à l'image de ce qu'on croyait être la Rome antique, la République romaine. Pas la démocratie athénienne, ça justement, c'était surtout sur Rome qu'il se fondait. Et pour Bonaparte, qui était consul, donc c'était celui qui allait ouvrir une ère nouvelle. Et Bonaparte était aussi comparé et nommé Prométhée. Et il y a un Italien qui a fait un grand poème épique qui s'appelle Il Prometeo et qui, en fait, raconte l'épopée des guerres d'Italie de Napoléon. Et c'est vraiment la figure de celui qui apporte la divine étincelle à l'humanité nouvelle. Et il y a un petit relief qui a été pris à Rome et qui avait été déplacé à Paris, où on voit Prométhée qui crée cette humanité nouvelle. Pour nous, Prométhée, c'est celui qui a l'aigle et le foie dévoré, mais à cette époque-là, Prométhée, c'est celui qui était, c'est la figure de celui qui allait ouvrir sur une humanité nouvelle. Donc Beethoven avait cette image de Bonaparte dans les années 1800. Et comme à Vienne, c'était un peu beaucoup réactionnaire, et comme il y a une lettre où il dit « ils aiment que la saucisse, les Viennois, et ils ne sont pas là pour faire la révolution », Beethoven a eu l'intention d'aller à Paris, d'être reconnu et d'être, pourquoi pas, nommé maître de chapelle ou bien musicien officiel de Bonaparte. Et c'est dans cette intention qu'il s'est dit « je vais arriver à Paris avec des symphonies et des œuvres qui correspondent à l'horizon d'écoute de ces révolutionnaires qui avaient été abreuvés de musique parce que les révolutionnaires ont pris la musique comme moyen de communication. Maintenant, c'est la télé ou la radio. Mais la musique qui pouvait se développer, se transporter, il y avait des partitions qui ont été diffusées aussi et qui étaient une façon de modeler les nouvelles références et les comportements. Et la musique, donc, avait un rôle dans la création de nouvelles mentalités, d'une nouvelle sensibilité liée à cette nouvelle ère que Prométhée donc nous promettait, on va dire.
Thank you.
Quand Beethoven voulait aller à Paris, autour de 1803-1805, avec cette fameuse sonate qu'il a dédiée à Kreutzer, eh bien, il a intégré ce qu'il connaissait de l'école de violon, parce que Kreutzer était venu à Vienne en 1798, il avait dû le rencontrer, et Beethoven avait appris que dans au conservatoire de Paris, créé en 1795, il y avait une très grande école de violon dont, et des méthodes de violon qui étaient diffusées avec Kreutzer, et puis ensuite il va y avoir Baillot, et puis Rode, et la dernière sonate pour piano-violon, c'est pour Rode qui l'écrit, en se préoccupant du jeu spécifique de Rode pour le mettre en valeur dans son écriture. Parce qu'il voulait correspondre à l'horizon d'écoute, comme on dit, des Parisiens, pour pouvoir être accepté.
Ce Kreutzer est un bon cher homme qui m'a causé beaucoup de plaisir pendant son séjour ici. Sa simplicité et son naturel me sont plus chers que tout l'extérieur sans intérêt de la plupart des virtuoses. Comme la sonate a été écrite pour un habile violoniste, la dédicace lui va d'autant mieux.
Quand il va vouloir dédier la sonate pour piano-violon opus 47 à Kreutzer, Kreutzer a refusé de la jouer parce que c'était vraiment quelque chose, une musique, un terme qui a été pris dans des articles de terrorisme. Le mot y est, hein, c'est du terrorisme musical.
Afin de trouver un poste à Paris, Beethoven décide aussi d'écrire une symphonie et il couche les premières notes sur le papier en 1802 et il se dit que ce serait quand même pas mal hein, de la dédier à Bonaparte. Ce sera la troisième symphonie dite « L'héroïque ». Alors l'œuvre est jouée publiquement le 7 avril 1805. L'accueil n'est pas très chaleureux et ce qu'on lui reproche surtout, c'est sa durée. C'est beaucoup, beaucoup trop long. Ce à quoi Beethoven répond avec le flegme qui le caractérise « Ils trouveront l'héroïque très courte, une fois que j'aurai écrit une symphonie de plus d'une heure ».
La troisième symphonie, c'est...
La musicologue Florence Badol-Bertrand.
C'est vraiment le moment où tout bascule, justement. Beethoven commence à en jeter les premières notes dans la chambre d'hôtel à Heiligenstadt, dans laquelle il s'est retiré pour écrire son testament à l'intention de ses frères. Il a l'intention de se suicider, puisqu'il ne voit plus, il a 32 ans, il ne voit plus, tout simplement, comment gagner sa vie. Et ça, c'est une question assez cruciale chez Beethoven, c'est cette inquiétude de manquer, il a grandi. Avec cette inquiétude-là, il a gagné très tôt, enfant, finalement. Il a gagné l'argent qui nourrissait toute la famille. Ça l'a poursuivi jusque dans ses derniers jours. Il commence à jeter ses premières notes. Et puis, au fil de la rédaction, on connaît l'histoire. Il décide de rester en vie et d'accepter ce handicap. Et c'est finalement surtout le moment où sa vie bascule du côté de la composition. Il faut parfois des événements comme ça, comme Schumann atrophiant son annulaire gauche, ce qui fait qu'il n'a plus le choix, il sera compositeur et il ne peut pas être pianiste. Donc pour Beethoven, qui avait une pratique de virtuose, c'est évidemment décisif. Alors, il commence à jeter ses premières notes. C'est d'une certaine manière le héros, c'est lui aussi. Hein. C'est celui qui accepte cette vie difficile et incertaine. Et c'est vraiment héroïque, justement, par rapport à cet état d'esprit qui était le sien, de toujours avoir peur de manquer. Donc le premier héros, quand même, c'est lui. Après, il y a une fascination, en 1802 encore, une fascination un peu générale en Europe, hein, pour le personnage de Bonaparte, dont on fait un grand héros civique. Et Beethoven, comme beaucoup de ses contemporains, est très impressionné. Et il a un grand espoir sur une société nouvelle, finalement. Et puis le temps que la symphonie héroïque soit composée, parce que c'est un travail aussi monumental. Donc cette symphonie héroïque, c'est par exemple une nouvelle conception au niveau du premier mouvement, de cette notion de forme sonate, donc exposition, développement. Alors on ne dit pas comme ça à l'époque, les Allemands disent la Durchführung, c'est ce moment très libre, et la réexposition, la résolution des tensions. Eh bien là où on avait dans l'époque classique un développement qui était toujours plus court que l'exposition et la réexposition, Beethoven, lui, écrit un développement qui mange quasiment tout le mouvement. Et c'est vraiment l'idée de péripétie, mais aussi de la déconstruction. C'est-à-dire que les éléments thématiques qu'il a donnés dans son exposition, il les démantèle, enfin pièce par pièce, et puis il arrive à prolonger cette durée avec justement une fugue, un fugato en tout cas. Voilà, si bien que la réexposition, c'est retrouver le matériau principal, le matériau du départ, la tonalité du départ, bien sûr. Il y a une anecdote d'ailleurs qui est un peu drôle, c'est que la réexposition est lancée par le deuxième corps, tout seul, qui recommence à jouer tim, pam, pim, pam, et tout l'orchestre reprend. Et Ferdinand Ries, qui était le secrétaire, le factotum, et peut-être un peu le souffre-douleur quand même de Beethoven, a cru que le corniste s'était trompé et qu'il avait commencé à jouer une mesure trop tôt, puisque tout l'orchestre rejoint à la mesure suivante, et donc il avait giflé le corniste. Et Beethoven était furieux contre Ries parce que, justement, c'est exactement l'effet qu'il voulait.
Beethoven a créé cette symphonie qu'il voulait appeler Bonaparte.
Elisabeth Brisson.
Ou qu'il voulait dédier à Bonaparte, comme les symphonies de Haydn, qui avaient des noms ou bien qui étaient dédiées à... Il y a une lettre à son éditeur Breitkopf et Hertel où il dit c'est vraiment Bonaparte. Il a écrit Bonaparte d'ailleurs. Pour lui, c'était vraiment lié à la figure du héros, mais oui, c'est le héros prométhéen. D'ailleurs, il va reprendre dans le final de cette symphonie le final qu'il avait conçu pour le ballet qui s'appelait Les créatures de Prométhée et qui avait été donné en 1801 à Vienne et qui lui avait été commandé. Donc il s'était frotté à la figure de Prométhée, Prométhée, Bonaparte, lui, Paris, donc il y avait tous ces éléments-là.
Nous sommes à Paris, Notre-Dame, le 2 décembre 1804.
Contrairement à ce qu'on dit d'habitude, Napoléon n'est pas devenu empereur par son couronnement.
Thierry Lenz.
Le 2 décembre 1804, à Notre-Dame, il a effectivement été couronné, mais l'Empire avait été proclamé au mois de mai. C'est le 18 mai 1804 que Napoléon est devenu empereur, on va dire, avec deux procédures. La première, ça a été le vote de la transformation de la République en empire par le Sénat. D'ailleurs, quand on dit transformation de la République en empire, on n'a pas totalement raison, puisque l'article 1 de la nouvelle Constitution dit « Le gouvernement de la République est confié à un empereur ». Bien. Donc c'est dès le 18 mai qu'il a été empereur. Mais bon, il a voulu marquer au départ sa prestation de serment, car l'empereur devait prêter serment, par une cérémonie, on va dire, assez grandiose. Et puis, de fil en aiguille, il a réussi à imposer une cérémonie qui commencerait par une messe, au cours de laquelle il serait béni à plusieurs reprises par le pape Pie VII. En fait, le pape n'a fait que présider la messe, faire quelques bénédictions, puisque, tout le monde le sait, Napoléon s'est couronné lui-même. Et puis surtout, la cérémonie s'est terminée hors de la présence du pape par la prestation de serment.
Je fus le premier qui apportait à Beethoven la nouvelle que Bonaparte s'était sacré empereur. Là-dessus, il entra en fureur et s'écria « Ce n'est donc rien de plus qu'un homme ordinaire. Maintenant, il va fouler aux pieds tous les droits humains. Il n'obéira plus qu'à son ambition. Il voudra s'élever au-dessus de tous les autres. Il deviendra un tyran. » Il alla vers la table, saisit la feuille de titre, la déchira de bout en bout et la jeta par terre. La première page fut réécrite à nouveau, et alors la symphonie reçut pour la première fois son titre, Sinfonia Heroica, Ferdinand Ries.
Il y a aussi toute une légende là-dessus qui a été racontée par Ries 30 ans après, qui dit que quand il a su que Napoléon était empereur, et de rage, il a déchiré sa partition. Moi, je pense que là, effectivement, il y a une copie de la partition, de la partition de la troisième symphonie où il y avait écrit Bonaparte et ça a été rasouré, comme ils disent les Allemands. Donc il y a un trou dans la partition. Mais ensuite, il y a écrit au crayon, mais ça a été écrit sur Bonaparte. Donc il y a eu des remords, on va dire. Et il ne l'a pas déchiré, il ne l'a pas piétiné, la première chose. Et deuxième chose, c'est que plutôt que le fait qu'il soit devenu empereur, c'est que le fait qu'il est devenu ennemi. Et c'était un ennemi de l'Autriche, et donc il n'y a plus question d'aller à Paris, plus question d'honorer un ennemi. C'était surtout, à mon avis, sa déception personnelle. Changer de lieu, devenir peut-être un musicien officiel à Paris, c'était plus possible. Moi, à mon avis, c'est plutôt ça, sa déception. Alors ensuite, ça, c'est le problème. Comment la biographie de Beethoven va être construite dans les années 1830-1840, avec tous les enjeux de politique en Allemagne, entre les villes allemandes, avec l'Autriche. Cela aussi, ça retombe sur les images d'Épinal qu'on a accolées à Beethoven. Alors, et on a retrouvé un papier où, en 1810, quand Napoléon a épousé Marie-Louise, il y a une feuille comme ça de notes où il a écrit n'importe où, n'importe comment, à la fois des notes et des réflexions. Et là, il se demande s'il ne va pas dédier sa messe, opus 86, enfin on pense que c'est ça, dédier une messe à Napoléon. Donc en 1810, il est fasciné par ce grand personnage politique. Et au moment de la mort de Napoléon en 1821, dans les carnets de conversation, il y a effectivement aussi une référence à Napoléon où il est du côté de... S'il avait réussi, ça aurait été un petit peu mieux pour la vie de tous. C'est, grosso modo, c'est ça qu'il dit. Et il y a un Américain qui s'appelle John Club qui a fait un livre où son idée, c'est que Beethoven se mesure à Napoléon. Et je crois qu'il n'a pas tort, John Club. Napoléon, ça a été sur le plan politique, et Beethoven, c'est sur le plan artistique, musical, artistique. Et il y a la même dynamique de combat, de conquête, on pourrait dire aussi. Et que si Napoléon gagne des batailles avec ses armées, lui, c'est avec son orchestre, quoi, si vous voulez. Ça a été un challenge, un peu comme Byron avec Napoléon. C'est une figure à la fois exemplaire, peut-être d'identification, mais surtout de stimulation. Parce que ce n'est pas la compétition, mais puisqu'il y en a un qui peut faire ça, là, moi je peux le faire aussi autre part. Ça lui a donné encore plus de dynamique héroïque pour surmonter ce qu'il a été en train de vivre.
La symphonie héroïque sera finalement dédiée au prince Lobkowitz, l'un des mécènes du compositeur, avec en titre Grande symphonie héroïque pour célébrer le souvenir d'un grand homme, le grand homme étant bien sûr Bonaparte Napoléon.
Napoléon a toujours eu la réputation de ne pas aimer la musique, c'est totalement faux. Alors d'abord, il y avait les musiciens en campagne, mais quand il était empereur, il a quand même d'abord réorganisé l'ensemble des institutions musicales françaises. Alors parisienne d'abord, puis française ensuite, et puis lui-même avait un entourage, d'abord tout le monde jouait de la musique dans l'entourage de Napoléon, lui chantait faux, mais c'est pas parce qu'il chantait faux qu'il n'aimait pas la musique, il adorait l'opéra italien, il a fait venir Paisiello de Naples à Paris pour en faire le grand compositeur, et puis finalement Paisiello a un peu échoué parce que ses œuvres n'ont pas plu, mais il avait autour de lui des gens comme Le Sueur, des gens comme Paër. Sur les 300 représentations théâtrales environ auxquelles Napoléon a assisté, il y a au moins la moitié qui est assister à un opéra, assister à une soirée musicale, etc. Donc dire qu'il n'aimait pas la musique est faux. Les deux fois où Napoléon est allé à Vienne, il aurait pu rencontrer Beethoven. Et Haydn aussi. Il n'a rencontré ni l'un ni l'autre, alors qu'il était... Bon, on sait qu'il aimait beaucoup Haydn. En revanche, Beethoven était assez inconnu en France à ce moment-là. La première mention de Beethoven dans un journal français, c'est dans le Journal de Paris, ça date de mars 1800, je crois, et où son nom n'est même pas bien orthographié. On l'appelle Monsieur Louis Van B-Toven. Hein. Il n'était pas tellement connu à ce moment-là en France. On jouait un petit peu de ses compositions pour le piano. On a joué ses symphonies un petit peu aussi au Conservatoire National de Musique, mais je suis quasiment convaincu que Napoléon ne savait pas qui était Beethoven.